Désormais, Luther a sa doctrine et il a sa solution. Il est chef d'école, hérétique, mais rassuré. On le voit, cette doctrine est née avant tout de son expérience intérieure personnelle. Sans doute, en plus de cela, a-t-il lu, et peut-être mal compris, saint Augustin, sans doute est-il influencé par le courant théologique qu'on appelle augustinien, hein, dont les contours de la théologie dite augustinienne sont parfois un peu rigoureux. Hein. Il y a des aspects un peu marqués par la sévérité, presque la dureté. Donc ça a probablement joué chez Luther. N'oublions pas que c'est un moine augustinien. Enfin, Augustin, pardon. Des pères augustins. Donc, le maître, c'est saint Augustin. Mais c'est probablement pas cela le déclencheur principal de sa rupture. Parce que là, nous sommes dans la circonstance personnelle, chez Luther lui-même. La circonstance, c'est plutôt cette angoisse, cette recherche de soi-même dans la religion, cette déception psychologique, ce scrupule, cette anxiété permanente, et ce refus de laisser faire Dieu, au fond, de s'abandonner et de perdre le ressenti religieux. De là, sans doute, vient ce que j'appellerais maladroitement le burn-out spirituel, qui fait que, à vouloir trop tout contrôler, il s'aperçoit que c'est impossible. Or, il faut trouver une solution. Et donc, la solution est mal trouvée dans une situation d'anxiété extrême par des déformations de la Sainte Écriture, notamment de Saint Paul, des épîtres de Saint Paul. Pour Luther, en tout cas, le résultat, c'est que désormais que la foi-confiance doit assurer l'état d'euphorie spirituelle qu'il a toujours ardemment désiré. Il ne demande plus au goût sensible de la vie religieuse, au ressenti de la grâce, cet enthousiasme ressenti. Non. C'est la confiance, la solution. C'est la confiance malgré tout. Luther transforme son cas personnel en vérité théologique, son propre état, de fait, en loi spirituelle universelle, et ce faisant, il croit se délivrer de tous ses tourments de conscience, en désespérant une fois pour toutes de toutes les œuvres, et en se jetant tel quel dans la confiance au Christ. Voilà que le scrupuleux est totalement débridé. Nous sommes passés d'un excès à un autre. Irrésistiblement, il subit alors de plus en plus la loi de la chair. Colère, calomnie, haine, mensonge, amour de la bière et du vin, obsession de l'ordure et de l'obscénité, tout s'épanche, tout déborde largement. Il prêche sans vergogne, par exemple, de même qu'il n'est pas en mon pouvoir de n'être pas homme, ainsi il ne dépend pas de moi de vivre sans femme. À chaque fois qu'on entend ces paroles-là, nous constatons que le centre de sa prédication, c'est pas Dieu, c'est lui. C'est lui, il parle de lui-même. Mais le prêtre ne parle pas de lui-même normalement quand il prêche. Il parle à quelqu'un d'autre de Dieu. Après cela, sa conscience peut-être de temps en temps le rappelle-t-elle à l'ordre ? Mais la foi-confiance a mission de le rassurer immédiatement, cherche à te divertir. De temps en temps, il faut même, quelquefois, faire un péché par haine et mépris pour le diable, afin de ne pas lui laisser l'occasion de nous créer des scrupules pour des riens. Si on a trop peur de péché, on est perdu. Incroyable. C'est retournement complet de la théologie catholique, de la morale catholique. La grâce, dans la perspective luthérienne, est vraiment extérieure à l'âme, comme un voile sur les souillures de celle-ci. effectivement, la théologie protestante, luthérienne, je veux dire, se focalise sur la créature. Elle fait tourner la science des choses divines autour de la souillure humaine. Invincible. La grâce ne soigne ni ne guérit plus, comme la théologie de l'Église l'enseigne. Elle dissimule la saleté morale de l'âme par un simple cache apposé sur les souillures réputées inévitables et ineffaçables de l'âme. Il trouve la formule géniale « Justus ex fide vivit » dans saint Paul aux Romains, « Le juste vit de la foi ». Voilà, c'est ça qui donne la vie spirituelle au juste. Il a la foi. Il faut croire. C'est une interprétation que je ne vais pas détailler, mais il part, saint Paul, quand il part, écrit ça aux Romains, il fait référence au prophète Habacuc, il cite Habacuc, qui est un prophète qui a reçu une révélation de Dieu, qu'un événement va avoir lieu. Et Habacuc dit aux gens, ça va avoir lieu. Et les gens disent, ha, 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 ça n'aura pas lieu. Ça va avoir lieu. Et donc, il disait, si vous n'y croyez pas, vous allez mourir. Le juste vivra par sa foi, il faut croire. Effectivement, il ne croit pas, il meurt. Alors, dans ce cas-là, bien sûr, la foi passe au-delà de toute probabilité, toute estimation. Mais c'est cela que saint Paul veut dire. Lui, il l'interprète comme une loi générale. Il y a une sorte de justus ex fide vit pour tout, y compris pour la vie morale. Tu peux faire ce que tu veux, du moment que tu crois, que tu as confiance en Dieu. Mais ici, il ne s'agissait pas de confiance sous la plume de Saint-Paul ou d'Habacuc. Il s'agissait de croire à un événement qui avait été prédit par Dieu. Là, oui, il faut croire, contre toute apparence. Chez Luther, donc, il y a une prédominance du volontaire, je fais confiance quoi qu'il arrive, et de l'émotionnel. Elle empêche une compréhension nuancée des formules de la Sainte Écriture, notamment la formule paulinienne « Le juste vit de la foi ou de sa foi ». Luther a saisi l'idée brute, il l'applique sans nuance, parce qu'il en a besoin psychologiquement. Il faut trouver une solution. Galvanisé par cette apparente solution, confirmation donc, par la Bible, de sa nouvelle conception de la foi, Luther développe de manière disproportionnée l'épître aux Romains dans son exaltation de la foi au détriment des œuvres d'obéissance à la foi. Par exemple, dans une Bible protestante, lointaine conséquence de la révolte luthérienne, il n'y a pas d'épître de saint Jacques dans les Bibles publiées par les branches multiples protestantes. Il n'y a pas l'épître de saint Jacques parce que la saint Jacques parle de la foi et des œuvres de la foi. Mais là, non. Donc, cachez ce passage de la Sainte Écriture que je ne saurais voir. Il disait, je crois, il y a des passages de l'Écriture sainte devant laquelle il faut passer en soulevant sa barrette. Et donc, il ne faut pas les regarder. Une foi totale, mais finalement vide de contenu et d'obligation. De telle manière que il considère la raison, l'intelligence humaine, comme un instrument totalement inadéquat pour parler de la foi. Il ne faut pas raisonner sur la foi, il faut croire. La raison, dit-il, est contraire à la foi. La raison est directement opposée à la foi, dit-il à un autre endroit. Aussi, on doit la laisser aller. Chez les croyants, elle doit être tuée et enterrée. On ne réfléchit pas. On ne raisonne pas sur la foi. Pas de théologie, pas d'enseignement doctrinal. D'autre part, le contenu de la foi, qu'est-ce qu'il faut croire ? Il n'est pas fixé pour lui. Il faut faire confiance absolue au Christ. La foi, c'est la confiance absolue au Christ. Ça c'est obligatoire pour tout le monde. Mais chaque âme donne un contenu à sa croyance. Chacun se fait une sorte de religion privée, en tout cas ajustée à soi, parce que la Sainte Écriture est à interpréter individuellement. Il n'y a pas de raisonnement théologique, donc il n'y a pas d'enseignement théologique, il n'y a pas de magistère, parce que la raison est contraire à la foi, on ne peut pas expliquer, donc chacun fait son interprétation. En d'autres termes, la confiance dans le Christ est pour tous. Ce qui est cru, en revanche, dépend de chacun. La foi est variable d'un individu à l'autre. Qu'est-ce que tu crois ? Ça, intéressant, moi je crois ça. C'est pas... On est quand même tous les deux chrétiens et protestants, pas de problème. Est-ce que tu as péché ? Bien sûr. Alors, il propose de... Il dit, le Christ alors s'abaisse, comme un bon pasteur, s'abaisse devant toi. Et toi, tu sautes sur son dos, et il te prend avec lui, et il te sauve. Il ne demande pas qu'on change de vie, il dit qu'on se jette dans le Christ. On est très loin, évidemment, des textes du Nouveau Testament sur ce sujet, compris dans l'ensemble de leur enseignement. On est très loin de la vérité théologique et dogmatique enseignée par l'Église. Vous comprendrez bien, donc, que c'est la circonstance principale déclenchant la rupture de Luther, à mon humble avis, et je m'appuie donc sur Grisard et sur Maritain, c'est sa propre, son propre... manque d'axe spirituel. Il est désaxé spirituellement dès le début. Dès le début. Et devant... c'est absolument certain. Parce que la crise qu'il traverse est une crise très ordinaire. Avec un directeur spirituel et des supérieurs. C'est une crise qui devrait être surmontée, probablement. Parce que l'Église ne vous laisse pas... comme une vieille chaussette trouée sur le bord de la route alors qu'il neige. Il est prêtre, il est dans un ordre religieux. Comment se fait-il qu'il n'y a pas de gens pour l'épauler ? Il y a des gens pour l'épauler. Mais se fait-il épauler ? Se confie-t-il ? Donne-t-il les clés de sa maison intérieure à quelqu'un ? C'est extrêmement important, parce que la solitude est très... Oui, ça va pas quoi. Donc, ce que je dirais, c'est que le déclencheur principal de sa crise, de sa rupture, c'est lui-même. Le manque de raison. Cela dit, il est extrêmement brillant et le déclencheur historique. Est plutôt l'affaire des indulgences. C'est vrai que Léon X vend des quantités d'indulgences à un prince allemand dont j'ai oublié le nom maintenant, mais je crois que c'est l'empereur, en lui disant « Vous pouvez les revendre vous-même. » Plus ou moins. Donc il lui en donne des stocks, comme on dépose, si vous voulez, ces bouquins chez un libraire. Moi, j'ai droit à 30%. Et puis, chez un autre libraire, bon, Léon X faisait, lui, 50%, paraît-il. C'est pas très exemplaire. Et donc, réagir à cela, c'est légitime. C'est pas légitime. C'est fondé,